vous présentez pourrait, si on allait jusqu'au bout, devenir très très compliqué, à l'image au fond de nos sociétés contemporaines. Comme vous savez, un tas de problèmes se posent, un tas de débats, de conflits, de processus, et c'est parfois très difficile d'arriver à clarifier. Donc mon rôle ici, c'est un vrai plaisir de le faire parmi vous, c'est essayer de voir comment on peut, en repartant des choses, en reposant des questions, et en vous aidant finalement à vous approprier ces questions, retrouver le fil d'une compréhension de ce qui se passe dans notre monde contemporain, le monde dans lequel nous sommes et dans lequel que nous construisons. C'est aussi le monde que vous allez fabriquer avec d'autres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un point de vue assez, comme on dit, je parle dans un métier technologique, donc outillé, c'est-à-dire avec des outils de pensée pour essayer d'affronter la complexité qui est la nôtre. Alors, le titre, vous voyez, c'est un peu à la fois simple et complexe, science et technologie en controverse. J'imagine que quand même, comme la plupart des gens, vous avez souvent entendu parler de disputes, de controverses, de conflits, notamment à travers les médias, mais il y en a dans plein de secteurs, autour par exemple du nucléaire, exemple qui n'était pas prévu au départ dans mon topo, la première date qui était prévue. Des choses arrivent, vous voyez, qui peuvent mettre en colère ou provoquer des disputes. Vous avez tous entendu parler très certainement des OGM, des organismes génétiquement modifiés, des risques de l'amiante, de toutes sortes de choses qui vont à un moment donné poser la question de l'usage qui est fait dans une société industrielle de technologie. Et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui pour essayer de vous donner un peu des éléments de réflexion sur ce qu'on appelle couramment des risques. Alors, tous les métiers, quels que soient les métiers qu'on développe, il faut faire attention au Larsen, je pense, c'est le risque de Larsen, ça y est. Dans tous les métiers, il y a des risques. Et ce que je voudrais vous faire partager, c'est un peu un regard sur cette question de risque. Sommes-nous dans une société particulièrement marquée par les risques, plus risquée qu'une autre? Comment gérer les risques, selon l'expression officielle? Quel type d'attitude prendre en tant que citoyen ou en tant que professionnel par rapport à ces questions? Et donc j'ai prévu 4 points. Je ne suis pas absolument sûr d'aller jusqu'au bout parce que 45 minutes, ça passe vite et je voudrais vraiment y aller tranquillement, ou pas trop. De toute façon, vous aurez accès ensuite à ce matériel et vous pourrez aller vous documenter sur le web. Il y a des choses accessibles en ligne. Donc, un point au fond, qu'est-ce que ça peut vouloir dire les sciences à l'épreuve des risques ou les risques à l'épreuve des sciences? C'est-à-dire pourquoi cette relation entre science, société et risque aujourd'hui, pourquoi elle est si forte et si importante. Essayez de donner quelques définitions ou un point de vue très pratique, facile à obtenir sur qu'est-ce qui caractérise un risque, par exemple par rapport à un danger. Quelle est la différence entre un danger et un risque? Quelle est la différence entre un risque et une incertitude? Ce sont des notions très importantes. Vous allez très souvent être amené à manier d'une manière ou d'une autre, y compris dans la vie personnelle. Hein. C'est des choses qui, on dira, j'ai pris un risque, ou je suis dans une phase d'incertitude, ou je me suis mis en danger. Vous voyez, toutes ces expressions sont quand même très très denses et riches d'une longue histoire, qui ont évidemment aussi des conséquences politiques. Pourquoi aujourd'hui on est dans un monde où on parle à longueur de journée, surtout dans les médias et dans l'espace politique, de principes de précaution? J'avancerai quelques éléments de réponse. Évidemment, on pourrait y passer des semaines et des semaines à parler de ces affaires-là. Et enfin, j'aborderai une question qui est très importante, c'est vous donner un regard tout à fait neutre et distancié sur pourquoi des acteurs se mobilisent, parfois de manière presque, enfin violente, mais on peut dire. Pourquoi des gens vont faucher, par exemple, des champs de maïs transgéniques? Pourquoi ils font ces gestes qui sont évidemment illégaux du point de vue du droit pénal? Pourquoi certains acteurs vont s'enchaîner devant des sites, etc., etc. Et je montrerai quelques exemples de ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire des acteurs qui vont aller dénoncer. Hein, par exemple. La Greenpeace vient de lancer une grande campagne internationale sur le nucléaire, par exemple, enfin, sur le nucléaire, contre le nucléaire. Donc, vous voyez qu'il y a des opérations qui, vous allez voir, surgir. Parfois, ça prend la forme d'un graphe sur un mur. Parfois c'est une affiche, parfois c'est des gens dans la rue, parfois c'est beaucoup plus que ça. Et donc cette espèce de mise en rapport de ces questions de risque, de science et de société, et de mobilisation citoyenne, etc. Alors ce que je vous demanderai, pour qu'on soit bien en communication, c'est qu'il y a, dès que ce que je raconte devient trop abstrait, ou je vais trop vite, où j'avale peut-être des précisions pour rester en phase avec vous, c'est de me faire un signe. C'est-à-dire que je ne vais pas désigner des témoins, mais aléatoirement, je pourrais prendre un certain nombre de témoins et dire, dès que vous ne suivez plus, vous levez la main, s'il y en a quatre qui lèvent la main en même temps, c'est que vraiment... Mais bon, n'hésitez pas à manifester que ce que je raconte quitte un peu le socle d'une compréhension évidente. Là, j'ai pris simplement une petite liste, c'est une toute petite liste d'événements. Je pense que tous, plus ou moins, vous en connaissez, vous avez entendu parler d'une majorité de ces dossiers-là. C'est pour ça que je les ai choisis. Il y en a énormément d'autres, mais j'ai préféré faire un zoom. Pourquoi ? Parce que depuis 1986, donc 1986, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, je pense, l'accident de Tchernobyl, alors c'est bizarre du coup parce que ça fait une espèce de boucle, mais bon, a marqué considérablement les sociétés industrielles. Ça se passe... ce qui était à l'époque l'Union soviétique, en Ukraine, du côté d'une ville qui s'appelle Gomel, le site s'appelle Tchernobyl, et c'est la fameuse centrale nucléaire, un accident qui était d'une configuration très particulière, je ne vais pas décrire Tchernobyl ici, mais qui a marqué suffisamment les esprits pour deux raisons. D'une part, parce que ça montre bien que l'industrie nucléaire peut provoquer des accidents extrêmement graves, et donc avec une perte de contrôle de la part des opérateurs et des autorités, et d'autre part, que les émanations radioactives à un endroit donné, peuvent se retrouver de l'autre côté de la planète. Et ça, ça veut dire qu'il y a effectivement une mise en danger de l'ensemble des États, et donc de tous les acteurs potentiellement. C'est qu'il n'y a plus de localité protégée. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous planquer quelque part, tranquillement, au nord de Valenciennes, dans les Vosges, en Corse, etc. Vous pouvez à tout moment recevoir... alors aujourd'hui, on parle de panache, enfin bon, de nuages, en tout cas, par exemple, de la radioactivité. Mais bien d'autres choses. Et on va y venir. Autre élément dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la fameuse affaire du sang contaminé. Très important dans cette affaire de science, technique et risque, parce qu'elle a fait basculer, elle a fait changer le rapport de responsabilité à la fois des politiques, des médecins et des représentants de l'État, des administrations, face à la question de la prévention du danger et du risque. Bon, je résume de manière un peu caricaturale l'affaire, parce qu'il faut aller vite, mais en gros... On savait que le sida passait à travers la transfusion sanguine et à travers des lots de sang qui n'avaient pas, notamment quand ils n'avaient pas été chauffés à une certaine température, et il y a eu écoulement de stock, je vais vite, parce que c'est quand même une affaire qui est énorme, et donc il faut être très prudent dans ce qu'on dit, mais enfin en gros ce qu'on en retient, c'est qu'il y a eu une faute de l'État, avec des responsabilités en chaîne, de gens qui n'ont pas lancé l'alerte, d'autres qui n'ont pas entendu les signaux qui étaient envoyés, d'autres qui n'avaient pas lu la littérature scientifique qu'il fallait, et les politiques qui ont rien compris sur le coup, et qui ont essayé de rattraper après coup cette affaire. C'est devenu un des scandales les plus importants de la période contemporaine. Le sang contaminé, c'est pour beaucoup d'acteurs juridiques, pour beaucoup de militants, pour beaucoup de gens qui vont intervenir sur ces questions de risque, le paradigme, comme on dit, c'est-à-dire le modèle, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'au fond... il va falloir, à partir du sang contaminé, réformer complètement la manière d'être attentif à ce qui peut potentiellement atteindre, affecter la santé des êtres humains ou non humains, puisque les animaux, la chaîne alimentaire et tout ce qui va avec va être concerné potentiellement. Donc vous voyez, il y a toute une liste. L'amiante était un des moments très importants d'entrée en crise aussi des systèmes socio-techniques, c'est-à-dire de la manière dont on fabrique des technologies, on les disperse dans des environnements, en l'occurrence dans des bâtiments. Je vous rappelle d'ailleurs que le scandale de l'amiante ressurgit en France en 1994 à travers un lycée technique. Ce sont des veuves d'enseignants du lycée de Gérardmer dans les Vosges qui portent plainte pour mise en danger sur la base précisément des réformes liées au sang contaminé, à la réforme du droit pénal, et ça provoque un nouveau scandale. Et en fait, il y a de l'amiante dans nos environnements depuis presque un siècle. Donc vous voyez que ces choses-là sont importantes. La crise de la vache folle, bon là, quand vous commenciez à être né, non, 96. En tout cas, la crise énorme, puisque tout le monde se demande s'il doit encore manger du bœuf. C'est la véritable, c'est un effet de réaction en chaîne sur toute l'Europe. Rappelez-vous le bœuf anglais qui est donc interdit à la consommation. Il y a un embargo. Il y a quand même des premières victimes d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie dégénérative qui est extrêmement impressionnante et qui touche des gens jeunes, alors qu'habituellement Creutzfeldt-Jakob touchait des gens âgés. Et donc on a une forme de dégénérescence accélérée par le fameux prion qui est transmis par la viande, en tout cas par certaines parties de la viande bovine. les OGM qui vont déferler sur l'Europe, comme on dit, comme disent certains activistes, et qui en fait vont être freinés par la critique de certains militants. Le changement climatique, dont vous avez forcément entendu parler, puisque c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant et dans nos esprits, etc., etc. J'en passe et j'arrive, voyez, les dernières catastrophes ou les derniers événements importants que j'ai retenus. Le bisphénol A, on en parle beaucoup parce que ça touche une zone sensible de nos sociétés, c'est-à-dire le nourrisson à travers le biberon, puisque la partie, les plastiques sont mis en cause comme contenant du bisphénol, c'est-à-dire un produit chimique extrêmement nocif et reconnu comme un perturbateur endocrinien. Vous voyez, tout ça, c'est des termes techniques, mais enfin, c'est quand même des choses qui circulent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier l'endocrine, ça veut dire provoquer des dégâts considérables sur l'organisme. Xynthia, la fameuse tempête qui ravage notamment la fameuse le secteur de la Faute-sur-Mer, un nom prédestiné, bien sûr, comme souvent dans les catastrophes, c'est un petit peu ça. Deepwater Horizon, qui était la fameuse plateforme pétrolière du Golfe du Mexique, qui explose. Et puis, il y a maintenant un mois exactement, suite au séisme et au tsunami sur le nord-est du Japon, une centrale nucléaire qui change complètement d'état. Et c'est une première historique, puisque là, on a au moins quatre réacteurs et des piscines de stockage qui sont hors de contrôle. Et malgré les tentatives faites par les autorités de sûreté et ce qu'on appelle l'exploitant japonais TEPCO, l'entreprise qui gérait la centrale, encore aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr qu'elle soit sous contrôle. C'est d'ailleurs ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire française, qui est quand même plutôt pro-nucléaire, on va dire, en tout cas, qui relativise beaucoup les choses. Et là, on est dans une figure de la catastrophe assez importante. Donc vous voyez que des événements, ils s'en produisent, et ça va poser des problèmes très intéressants du point de vue, je dirais, du regard qu'un chercheur, qu'un citoyen, qu'un professionnel va poser sur ces questions-là. Parce que le danger, la catastrophe peut surgir à tout moment. Une affaire célèbre de 1993 a commencé avec un panneau de basket dans un lycée. Ça a fait changer le droit pénal. Hein. Ça a fait jurisprudence sur la question de la responsabilité, notamment des proviseurs et des directeurs d'établissements. Donc c'est-à-dire qu'un panneau de basket qui était mal fixé est tombé sur la tête d'un élève et l'a tué. Donc un simple truc qui bouge peut provoquer une catastrophe, et cette catastrophe qui peut rester locale, c'est un mort, c'est terrible, mais ça reste local, peut entraîner un changement du droit. C'est-à-dire qu'on va regarder autrement la responsabilité des chefs d'établissement, par exemple, dans la manière de traiter les risques auxquels sont soumis les participants. Ça va être vrai d'une salle de spectacle, ça va être vrai d'une autoroute, de toutes sortes de choses. Donc vous voyez que le risque et le danger peut surgir à tout moment. Donc ça va poser des problèmes très intéressants. C'est que d'une part, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible? Il y a des dangers perceptibles, des choses que vous pouvez détecter par le simple regard ou l'odeur. Si ça se met à sentir l'œuf pourri, c'est qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'une transformation chimique, par exemple. On a tous fait cette expérience, ça sent brûler. Et des choses qui vont être invisibles. Et donc il va falloir, pour rendre visible le danger, des équipements ou des instruments de détection qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et si, par exemple, je vous sors un radiomètre là et que je vous dis « Oh, mais il faut qu'on quitte la salle » ou en tout cas qu'on quitte même la ville parce que ça se met à cracher, ça se trouve, c'est la centrale de, alors je ne sais plus laquelle est la plus proche d'ici, Gravelines, hein, c'est ça ? Oui, bah, justement, oui. Avec les vents dominants, ça se trouve, bon. Donc, vous voyez, donc je fais apparaître quelque chose qui n'est pas sensible. Donc vous voyez que cette différence entre qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce que je peux percevoir, qu'est-ce qui n'est pas sensible, qui n'est pas perceptible, ça va faire des différences énormes. Et une grosse partie des controverses vont porter sur comment rendre perceptible ce qui ne l'est pas. Qui a les instruments de mesure? Est-ce que les mesures sont fiables? Qui faut-il croire? Et comment s'organise? Vous voyez, très vite, on est dans un problème de confiance. Est-ce que vous faites confiance à votre instrument ou pas? Vous êtes tous manchés techno. Vous savez très bien comment donner, si votre instrument est déréglé, vous obtenez des résultats complètement incroyables. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance sur les instruments et que le visible et l'invisible vont se définir dans cette relation. Donc les instruments de mesure, c'est quelque chose qui va devenir dominant dans une société industrielle comme la nôtre, et ça s'étend au niveau mondial. Vous allez avoir des mesures de toutes sortes. On va mesurer le niveau des mers, on va mesurer l'acidité, par exemple, des océans, très important, puisque c'est une indication forte de modification du milieu marin qui peut être liée à l'émission de gaz à effet de serre et au réchauffement anthropique. On va mesurer la présence de fibres, par exemple des particules fines liées au diesel. Actuellement, il y a d'ailleurs, le gouvernement est en train d'essayer d'avancer ce dossier À Paris, par exemple, on respire tous des particules fines en grande quantité. Les particules fines, donc, c'est émis par la combustion et ça se dépose dans les poumons. C'est invisible. Il faut des instruments pour le mesurer, etc., etc. Plein de choses sont en fait non perceptibles. Et une autre dimension qui est importante, c'est aussi la durée. Certains risques vont se manifester 10, 20, 30, 40 ans plus tard. On va prendre l'exemple de l'amiante. Dans le cas de l'amiante, le cancer typique de l'amiante, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune discussion parmi les scientifiques et les médecins internationaux depuis très longtemps, c'est le mésothélium, c'est-à-dire l'enveloppe du poumon. Les fibres d'amiante, en fait, se plantent dans l'enveloppe du poumon et provoquent des inflammations. Et ça met 30 ans pour développer un cancer. Et ce cancer est véritablement lié à la fibre, il n'y a pas de doute. Et donc, il faut 30 ans pour découvrir les dégâts d'une exposition éventuelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu, c'est une des explications plausibles, 30 ans de retard dans la prise de conscience de l'exposition de grandes populations à un risque. Donc vous voyez que la durée va être quelque chose de très important. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien à un moment donné qu'on prend une mesure instantanée. Donc ça veut dire qu'il va falloir répéter régulièrement, et vous allez avoir comme ça des professionnels, des professions entières, dont le boulot va être d'assurer la régularité de la vigilance, de faire des prélèvements, de faire des mesures, de vérifier en fait, et de faire des observations qui peuvent être cliniques dans le cas de la médecine, qui peuvent être physiques, chimiques, biochimiques dans le cas de l'environnement ou d'autres dispositifs. Donc dans tout ça, ça va mêler des acteurs qui vont être amenés soit à se bagarrer, soit à travailler ensemble, et c'est ce qui est intéressant pour un sociologue, évidemment, c'est pourquoi dans certains cas, les gens parviennent à travailler ensemble, à collaborer, des chercheurs, des experts, des industriels, des administrateurs, des gestionnaires, et des citoyens, des associations, si vous voulez, et d'autres cas où ça va être la guerre totale, le cas des OGM étant, par exemple, une belle figure de guerre qui a duré 15 ans, qui aujourd'hui est un petit peu dans une voie, une période, comme on appelle ça, une drôle de guerre, c'est une période de calme, et qui ne laisse personne dupe, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez à nouveau voir José Bové dans les champs en train de faucher des OGM, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez, le visible et l'invisible, c'est très intéressant, parce que ça donne lieu à des manifestations très impressionnantes. Ça, c'est à Bogota, en Colombie, où j'étais il y a, en 2009, et en fait, il se trouve que le président colombien lui-même a été atteint par la fameuse grippe dite porcine à l'époque, H1N1, et que, donc, étant alité avec cette grippe, il y a eu une alerte sanitaire sur la ville de Bogota, et donc vous voyez que les gardes du palais présidentiel portent un masque, qui est quand même très étrange comme accoutrement. Et en fait, c'est une façon de faire apparaître le danger. Vous voyez que des affiches se mettent à circuler qui annoncent, qui font exister la présence de quelque chose que vous ne voyez pas. La circulation d'un virus, évidemment, est invisible et vous avez des signes extérieurs. Donc l'organisation sociale va se doter d'instruments de visibilité, va marquer, il va y avoir tout un marquage, toute une signalétique et tout un changement de posture qui va marquer la présence du danger dans le monde social. Là, c'est la forme, donc ça, c'est des illustrations de ce que j'ai dit tout à l'heure. La radioactivité, elle ne se voit pas, par contre, elle se mesure. Et donc, évidemment, celui qui mesure, qui soupçonne la présence de radioéléments dans, par exemple, du césium dans un sol, il va se protéger. Parce que sinon, il va se prendre une dose, etc. Donc, vous voyez que la tenue qu'on appelle des shaddocks, en termes à la fois métaphoriques et techniques, permet, en fait, de se prémunir contre un certain type de rayonnement. Évidemment, ça ne peut pas durer non plus éternellement, comme on l'a vu au Japon récemment. Je veux dire, il fallait constamment que les équipes tournent. Et les techniciens se prenaient des doses qui dépassaient largement les doses autorisées sur une année. Et donc ça suppose une espèce de coordination. Vous voyez que le danger, le risque, ce n'est pas quelque chose d'évident. On peut l'oublier. Si on n'a pas les instruments, si on n'a pas l'organisation sociale pour marquer et engager les recherches, en fait, on peut parfaitement oublier la présence de toxiques, la présence de contaminants, la présence de sources d'exposition, etc. Par exemple, ici, nous avons des ondes électromagnétiques, qui nous traversent et qui produisent un certain nombre de chocs cellulaires, visiblement à faible intensité et sans trop de dégâts, parce qu'en général, il y a toujours une ou deux personnes qui les perçoivent un peu plus que les autres. Donc ça, c'est une autre dimension, je n'aurai pas le temps de développer, mais on a un article en ligne, bon, c'est un peu technique, sur la question de l'hypersensibilité. C'est comme si les sociétés humaines, par la variabilité des attitudes des uns et des autres, certains supportent le bruit, pas le métal à fond, d'autres n'arrivent pas à dormir s'il y a simplement un petit grincement dedans, etc. Vous avez toutes sortes de variations, et la variabilité permet toujours d'avoir des espèces de sentinelles. Un peu comme le règne animal est aussi formé, c'est toujours un détecteur qui va réagir le premier et qui va rendre manifeste que quelque chose est en train de se produire. Donc vous êtes par exemple soumis à un champ, ou par exemple soumis à un discours sociologique, il y a des hypersensibles qui ne supportent plus. Bon. Donc vous voyez, c'est très important de ne pas rejeter l'hypersensibilité comme quelque chose de ridicule, dont on se marre, voilà, c'est ridicule. Au contraire, parce que ça peut être le premier indice de la présence de quelque chose. À cause de ce jeu visible-invisible, durée, perception, absence d'instruments, etc. La plupart des inventions dans l'histoire des sciences viennent d'intuitions et de mise en rapport de choses qui étaient complètement incongrues au départ. C'est pas simplement la paume de Newton, hein, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, c'est une histoire de paume, elle est un peu déformée. Enfin, en tout cas, quand vous avez mise en rapport de choses qui n'étaient pas visibles, ça veut dire que vous changez le regard sur les choses. Et donc, des choses qui étaient farfelues deviennent sérieuses, etc., etc. Donc, l'hypersensibilité, c'est très important. Et dans les opérations technologiques que l'on fait dans plein de secteurs, même dans des bâtiments de vie courante, etc., il va y avoir des interventions sur des gaines, sur des canalisations, sur des zones, il va y avoir des poussières, il y a toutes sortes de choses. Il y a des recommandations qui ont été mises en place au fur et à mesure de toutes ces crises et ces problèmes de risque pour essayer de protéger au maximum. Et donc là, par exemple, c'est typiquement la combinaison qui permet d'intervenir sur un site amianté, avec des délais, des règles, etc. Et ça, vous aurez tous, un jour ou l'autre, à entrer dans ces dispositifs. Donc il ne s'agit pas, évidemment, de corseter les gens de règles et de principes de sécurité, etc., mais d'entrer dans un apprentissage individuel et collectif à tout ce qui peut suggérer des problèmes. Bon, je passe rapidement sur les OGM, parce que ça nous amène dans tout le monde, simplement pour vous montrer qu'une des conséquences de la mise en conflit d'un risque, c'est que ça peut partager le monde en deux. Vous voyez, avant on avait Est-Ouest, enfin, on peut dire d'une certaine manière, là on a deux continents qui font des OGM, vous voyez, de l'Amérique, donc là ce que ça indique, c'est au fond la quantité de cultures transgéniques à base donc d'organismes génétiquement modifiés, donc je n'explique pas. Si vous voulez, on pourra revenir dans la discussion, c'est-à-dire l'introduction d'un gène étranger dans une plante pour en améliorer les qualités ou en transformer les capacités, vous voyez que, de fait, le monde se divise en deux. L'Amérique fait des OGM, l'Europe est quand même très peu développée en OGM, il y a l'Espagne qui est, etc. Les points, en fait, c'est plutôt des sites expérimentaux, des essais. Et vous avez la Chine, notamment, c'est bien connu, avec le riz et le coton, qui sont beaucoup plus développés. Donc vous voyez que ça, le fait que des mobilisations ou des controverses puissent surgir sur le soupçon d'un risque à propos de quelque chose peut produire des effets géopolitiques considérables. C'est-à-dire que vous avez des régions du monde, littéralement, qui se spécialisent ou qui refusent d'entrer dans une technologie. Et la question européenne pour les firmes agro-biotechnologiques qui font des OGM est effectivement un enjeu majeur. On aura l'occasion d'y revenir. Donc là, vous voyez quand vous voyez des slogans de ce type, c'est le résultat de tout ce travail que font des acteurs pour empêcher l'introduction d'une culture. Et alors, ce qui est assez joli, c'est les formules. Ça, c'est aussi quelque chose que vous arrivez à transmettre assez rapidement comme ça. Il y a tout un tas de chercheurs qui travaillent là-dessus, des linguistes, etc. C'est OGM ou bio, il faut choisir. En fait, vous allez rencontrer très souvent ça. X ou Y, il faut choisir. Et il est évident qu'en général, le deuxième membre est celui qui est préféré. Boire ou conduire, enfin si vous mettez conduire ou boire, il faut choisir, vous inversez le sens de la formule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être très attentif là aussi à la manière dont les choses sont agencées. Ce n'est jamais fait n'importe comment. Il y a une tradition politique, historique, dans la manière d'agencer les mots et de faire passer un message. Et donc si je dis effectivement sociologie ou psychanalyse, il faut choisir. C'est clair que c'est plutôt défavorable pour la sociologie. Donc vous voyez, donc, il faut être très, très attentif. Donc, je ne vais pas parcourir tous les dossiers, mais il y a énormément de cas, et ça c'est une invitation que je vous fais, parce que tous, à titre individuel, vous avez des domaines qui vous intéressent plus que d'autres. Ça peut être le sport, ça peut être les animaux, la vie aquatique, l'environnement, l'espace, etc. Le nombre de problèmes qui ont émergé ces dernières années et qui suscitent des querelles, des recherches scientifiques, des problèmes de décision politique sont énormes. La question des abeilles est particulièrement centrale. Vous savez que depuis plus d'une vingtaine d'années, on observe des disparitions en masse de colonies d'abeilles, notamment aux États-Unis, ce qui est un vrai problème parce que la pollinisation, comme vous le savez, dépend beaucoup des abeilles. Il n'y a pas que la pollinisation, il y a aussi l'apiculture, toutes sortes de choses. Et donc, ça a suscité énormément de querelles pour essayer de trouver les causes de ces disparitions. Et ce qui est intéressant dans ces dossiers-là, c'est qu'on va avoir des acteurs qui vont avoir des interprétations différentes. Pour certains, c'est certains pesticides qui sont en cause. Et donc, il faut remettre en cause l'agriculture intensive qui a tendance à couvrir ces cultures de produits phytosanitaires, comme disent les vendeurs de ces produits. Ils ne disent pas pesticides, évidemment, ils vendent du phytosanitaire, qui vise évidemment à assainir les cultures, à empêcher un certain nombre de parasites, à détruire un certain nombre de maladies, etc. Et vous avez en fait des effets secondaires, ou des effets dérivés. Les abeilles peuvent, comme les sentinelles dont j'ai parlé tout à l'heure, tout à coup être les premiers récepteurs, les hypersensibles qui ne vont pas supporter la présence d'un certain type de chimique, de toxique dans l'environnement. Et vous voyez que ça va susciter des réactions, et donc c'est, avant d'aller à ces mobilisations extrêmes dont je parlerai à la fin, si, quand j'ai plus que 5 minutes, en fait, vous voyez par exemple que sur un marché, c'est un cliché qui date un petit peu, mais vous avez aujourd'hui nos abeilles, demain nos enfants. Ça veut dire que là, ça s'appelle typiquement ce qu'on appelle une alerte. C'est-à-dire qu'en gros, les abeilles sont les premières victimes, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir d'autres conséquences ultérieures, etc. Et donc, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous avez une marge d'action. Quoi de plus noble, finalement, pour un être humain que de pouvoir agir sur sa planète ? Évidemment, si on est tout le temps passif et spectateur, on peut assister au spectacle. Certains acteurs se délectent dans le catastrophisme. Moi, en tant que sociologue, je prends en compte toutes sortes de positions, de discours. Et vous avez ce qu'on appelle les prophètes de malheur. Le prophète de malheur rêve de voir arriver la fin du monde, ce qui lui donnera raison. Et en fait, ça, l'avantage, c'est qu'après, il n'y aura plus rien. Donc comme ça, il aura eu au moins, il aura vécu pleinement, vous voyez, la solution finale, d'une certaine manière. Il y a une dimension dramaturgique, c'est-à-dire de fin du monde. Et donc, l'alerte, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse rendre réversible ce qui s'annonce comme irréversible. Imaginez par exemple que les ingénieurs japonais aient réussi à sauver le système de refroidissement de la centrale avant qu'il soit noyé par une astuce quelconque. Ça aurait évidemment changé complètement la configuration. Donc il y a des situations où on peut agir avant, où il ne faut pas trop tarder à agir, comme on dit. C'est comme le dentiste, en général, il vaut mieux pas attendre d'avoir vraiment pour y aller, parce qu'en général, ça se finit mal, c'est par une extraction ou quelque chose qui est plus grave. Et donc, il y a une espèce de délai d'action qui se joue aussi dans ces questions de danger et de risque, et qui fait que toutes les sociétés sont prises en sandwich, si j'ose dire, entre deux contraintes. L'urgence, aller vite, ou l'attente. Attendre que des signes soient suffisamment perceptible pour qu'on ait des raisons d'agir. Et vous voyez qu'en fait, les querelles, les controverses vont souvent être entre les deux. Les OGM, certains disent, mais c'est trop tôt, on n'a pas suffisamment cultivé d'OGM, on n'a pas de signes comme quoi ça produit véritablement des pathologies, etc. Et d'ailleurs, de fait, même les anti-OGM, pour l'instant, n'argumentent pas au nom du risque sanitaire, mais plutôt au nom de la biodiversité et du risque que font peser les OGM sur la diversité des cultures, pas tellement sur les risques sanitaires. Parce qu'il n'y a pour l'instant rien qui sort des laboratoires de véritablement tangibles, etc. Même s'il y a des zones discutées, puisque vous savez que tout repose sur le fameux protocole où vous expérimentez les choses sur les rats. C'est nos meilleurs amis, comme vous le savez, bon, il y a les grenouilles, les amphibiens, qui nous ressemblent beaucoup en termes de génome, on est très proches en fait. Donc, faut pas être trop... Ça en fout un coup pour l'orgueil, mais en fait, on est assez proche des amphibiens, des souris et des rats, et c'est pas au hasard si la biologie moderne s'est concentrée sur des souris. Alors, des souris standardisées, des souris fabriquées, c'est très intéressant, toute cette histoire des souris et des rats de laboratoire, comme vous le savez, sûrement, qui ont été standardisées pour que les études soient reproductibles, parfaitement calculables, etc. Et donc, 90 jours, c'est à peu près la durée à laquelle on expose des rats à des toxiques, on leur fait bouffer des OGM, on leur fait bouffer des toutes sortes de choses, des phtalates, vous prenez la liste des produits chimiques et vous amusez avec quoi. Et la critique vient du fait que 90 jours, est-ce que c'est assez long finalement? Alors on va dire, oui, les rats ils se reproduisent très vite, il y a une espèce de cycle, etc. En même temps, la querelle, c'est sur combien de temps faut-il répéter les études? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est sûr qu'on a éliminé toute incertitude, etc. Donc vous voyez que l'observation du monde d'un côté, les études scientifiques de l'autre, les catastrophes qui vont advenir, qui va surgir et qui va surprendre tout le monde, vont être des moyens d'apprentissage collectif. C'est-à-dire que nos sociétés ont développé cette capacité qui va rompre avec une tradition plus ancienne où il y avait des cosmologies plus lourdes et plus difficiles à déplacer, vont constamment recalculer la manière de penser leur truc. Par exemple, les plateformes pétrolières, les prochaines plateformes pétrolières qui vont être construites ou installées offshore, etc., ne seront pas conçues de la même manière, parce qu'il y a le précédent de Deepwater Horizon, qui a été quand même des pires catastrophes récentes en matière d'émissions de pétrole dans une zone océanière. Donc je voudrais en arriver à un point important, qui est de bien distinguer les notions. Je vais en distinguer quatre, qui vous seront utiles, il me semble. Le danger, le risque, l'aléa et l'incertitude. Le danger, la meilleure définition qu'on puisse en donner, c'est une menace avérée ou actuelle, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train de se produire. Elle est tangible, c'est-à-dire qu'on a moyen de la rendre perceptible à quelqu'un d'autre. Vous pouvez montrer du doigt un danger à quelqu'un. Par exemple, griller un stop. Bon, il se trouve que je fais un peu de mea culpa. Hier, j'ai grillé un feu rouge. Je me suis fait arrêter quelques mètres plus loin par un gendarme que j'avais pas vu dans Paris, qui m'a sérieusement sermonné. Bon, je risquais pas grand chose. C'est vrai que je roulais doucement, mais bon, je ne pouvais que reconnaître effectivement que je m'étais mis en danger et que j'avais créé une situation de danger. Donc, il y a des cas où la tangibilité du danger n'est pas discutable. Donc, le danger a cette propriété de pouvoir être montré, partagé, vécu et géré dans Bon, par exemple, un exemple que prennent souvent les gens qui font un peu de pédagogie là-dessus, c'est si vous roulez en sens inverse sur l'autoroute, enfin, si vous aimez le danger, précisément, vous allez faire ça pour avoir le danger comme partenaire. Hein, je veux dire, c'est évident. Se mettre en danger, c'est aussi une source d'excitation. Évidemment, l'alpiniste, s'il monte un truc, les via ferrata pour les papy mamie, bon, effectivement. Mais se mettre en danger peut être effectivement la cause de l'action. Ça n'empêche que le danger est bien partenaire de la présence dans le monde. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Le risque, et c'est là où c'est important, va être complètement différent comme concept. Vous voyez que danger et risque, c'est deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que il s'agit de quelque chose de potentiel qui est essentiellement calculé ou calculable. Pour qu'il y ait risque, il faut faire une estimation, un calcul de probabilité. Et quand vous prenez votre voiture, vous avez un risque. Il est calculé par les assureurs, en gros. D'ailleurs, plus vous êtes jeune et plus ils vous mettent une prime, enfin en tout cas, le risque est élevé, donc vous avez une probabilité plus élevée. D'où d'ailleurs de redoubler de prudence, c'est mieux. Parce qu'en fait, vous pouvez associer des régularités à l'occurrence d'un certain nombre d'événements. Donc vous avez tous fait un peu de probabilité, je suppose, en maths, etc., des choses basiques. Quand on parle de risque, en fait, on implique, dans le raisonnement ou dans le discours qu'on tient, la possibilité d'un calcul. On peut évaluer un risque. Vous verrez souvent cette expression, on évalue un risque. Ça veut dire qu'on le rend calculable. On va vers une probabilité. L'idéal est évidemment un risque qui tend vers zéro, d'où la formule qu'emploient souvent certains politiques, donc, qui est désagréable d'ailleurs. Le risque zéro n'existe pas. Ben oui, parce que par définition, on ne peut jamais établir zéro dans un calcul de probabilité. On peut tendre vers zéro, mais on ne peut pas être à zéro. Et le risque peut tendre vers un, c'est-à-dire rejoindre le danger, c'est-à-dire devenir un risque avéré évident. L'aléa, c'est quelque chose de totalement différent. Là, je l'ai défini comme une menace potentielle imprévisible, donc non calculable. Vous voyez l'exemple, c'est je roule en voiture sur l'autoroute, il y a un avion en perdition qui me tombe dessus. Si vous commencez à calculer la probabilité de ce genre d'événement, ça va devenir totalement irrationnel parce que à chaque instant, chaque matin quand vous vous levez, vous avez une série d'événements qui peuvent vous tomber sur la figure, qui sont complètement, là on est dans la bande dessinée, c'est Gaston Lagaffe. C'est-à-dire que vous avez des enchaînements causaux totalement improbables qui peuvent, et donc c'est l'aléa. Très différent du risque, parce que le risque est calculable. Si vous fumez 2 paquets par jour, pendant 20 ans, votre risque de cancer du poumon ou de maladie cardiovasculaire, ou les deux, pas faire, est calculé. Puisqu'on a des populations, puisqu'on a du recul, on peut estimer une probabilité. Donc après, on peut toujours prendre le risque. Moi, j'ai une amie qui vient d'arrêter de fumer à 86 ans, parce que son cardiologue lui dit, bon, maintenant, il faut arrêter. Je lui dis, pourquoi faire ? C'est vrai qu'après 45 ans de Marlboro pendant deux paquets par jour pendant 45 ans, je veux dire, le risque s'est réalisé qu'à 85 ans. Donc, je veux dire, le médecin était ennuyé. Là, mais ça ne veut pas dire que. Vous voyez, donc, la réalisation du risque, c'est quand même quelque chose d'important, ça n'a rien à voir avec l'aléa. Danger, risque, aléa. Quatrième notion qui est encore très très importante dans toutes ces histoires-là, c'est l'incertitude. Alors, il est plaisant, vous avez tous entendu le mot rhétorique, sûrement au moins une fois, en tout cas il y a des traités de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art d'arriver à faire avaler des arguments en utilisant des procédés, vous voyez, où vous ne savez plus très bien ce qui est d'ordre de la logique, de la persuasion, du procédé, etc. Et on peut dire, tout est incertain, et finalement, voilà, on est dans un monde d'incertitude, il n'y a que de l'incertitude, et donc on ne peut rien faire. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est simplement un état intermédiaire dans lequel vous attendez de pouvoir calculer un risque. Il y a incertitude sur le fait que vous allez pouvoir calculer, d'accord ? On ne sait pas s'il y a un risque. C'est très important parce qu'une grosse partie des batailles auxquelles on assiste, notamment sur les nanotechnologies. Je ne sais pas si... Qui n'a jamais entendu parler de nanotechnologies ici ? Tout le monde sait ce que c'est que les nanotechnologies. Donc si j'en prends au hasard, que je demande de donner la définition, c'est bon. Bon. Les nanotechnologies, comme vous savez, ce sont des technologies qui se développent à l'échelle de l'atome, à 10-9 nano, et qui permettent de faire des opérations physiques, chimiques et biologiques sur la matière, qui changent complètement les types de transformations scientifiques et techniques qu'on peut réaliser. Donc les nanomatériaux, les nanostructures, comme les nanotubes de carbone, certaines choses en argent, en nano-argent ou en titane aujourd'hui, vont être des technologies qui vont surgir et qui vont envahir nos univers. Or, le problème, c'est que, vu la taille des matériaux en question, il y a une incertitude sur le type de risque que ça peut provoquer. Et donc, on n'est pas capable de calculer le risque, mais on pose les choses en termes d'incertitude. Et donc, on se force d'une certaine manière à rendre calculable ce qui ne l'est pas. Alors, les industriels du nucléaire, depuis maintenant le lancement des grands programmes de nucléaire civil, c'est-à-dire les années 60, ont passé leur temps à probabiliser les risques d'accident. C'est-à-dire en disant la probabilité pour qu'un réacteur nucléaire entre en fusion sur le parc, etc., est de tant sur un million. Et vous voyez, ce qui est terrible dans l'histoire humaine, c'est qu'une fois suffit. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose s'est réalisé, vous n'êtes plus dans un calcul de probabilité. Et Fukushima, c'est la réalisation d'un scénario qui n'était jusqu'alors que une probabilité. Et donc vous ne pouvez plus tenir le même raisonnement. Vous êtes passé dans l'après-catastrophe, dans ce qu'on appelle un précédent. Et donc aucun acteur sérieux, même d'ailleurs non sérieux de la planète, ne pourra aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui s'est passé à Fukushima. Tous les acteurs vont devoir regarder précisément comment s'est produit cet enchaînement catastrophique, quelles leçons en tirer, selon la formule utilisée, et les conséquences sur l'ensemble de la filière. Est-ce qu'on fait un référendum ici? Oui ou non? Voulez-vous du nucléaire demain? Vous voyez que la question redevient d'actualité alors qu'elle était un petit peu retombée et que ça va poser des problèmes. Est-ce qu'il faut-il fermer Fessenheim, la fameuse centrale qui est la plus ancienne du parc français, qui est, comme vous le savez, sur le Rhin et qui pose des problèmes aussi à nos voisins? Comme vous savez, les Allemands et les Suisses ne sont pas franchement des gens pro-nucléaire. Il y a une tendance, en tout cas, etc. Donc ça va poser de nouveau des conflits, des controverses et des rapports de force. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant parce que vous savez que la planète est aujourd'hui constamment mesurée et observée par des satellites. Et qu'en fait, dès qu'il se passe quelque chose, vous avez des images qui surgissent, par exemple sur le web ou dans les journaux télévisés, etc. Et là, vous avez une vue plongeante de l'émission de fumée par le réacteur numéro 3, je crois. Enfin, peu importe, de toute façon, ils ont tous un peu pété les plombs, donc... Enfin, il n'y avait plus de plomb du tout, d'ailleurs. Et vous voyez que c'est très important aussi tout cet appareillage qui rend visible, hein, qui rend tangible, parce que finalement, l'information, elle était complètement sous le contrôle du gouvernement japonais. Et les agences de presse qui passaient l'information ici étaient dépendantes, en fait, d'une chaîne de transformation. Et donc, est-ce que vous faites confiance à celui qui a intérêt à ne pas vous dire la vérité? C'est-à-dire qu'il va vous dire, c'est sous contrôle, il n'y a pas d'émission de radiation, etc., etc. Donc vous voyez que le travail dont j'ai essayé de donner quelques éléments est vraiment décisif, etc. Bon, je vais passer là-dessus Vous le trouverez sur le truc parce que je crois qu'il faut que j'avance. Je voulais juste vous prendre deux exemples. Vous savez qu'on parle beaucoup du principe de précaution et qu'il y a une grosse bagarre. C'est vrai que d'une certaine manière, pourrait se résumer à une bagarre droite-gauche, mais en fait, c'est plus compliqué. Disons, entre une certaine vision de l'industrie libérale et une certaine vision de la protection et de la régulation par les administrations, etc. Là, vous avez un panneau qui vous dit « Défense de descendre sur la glace ». C'est en janvier 2008, il fait 22 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une information aussi paradoxale soit soumise ? En fait, il y a eu un coup de froid dans une nuit qui a précédé, et de peur que le week-end suivant des gamins aillent sur la glace du lac de Vincennes qui est là, on a placardé. Mais évidemment, c'est au nom de la précaution, c'est pour dire on vous avait prévenu, c'est-à-dire qu'au fond, d'une certaine manière, on a envoyé un signal. Et vous voyez qu'il n'y a aucun réalisme à l'application de ce truc. Si je prends par comparaison une dizaine de mètres plus loin, dans le même parc, vous avez une autre signalétique. Là, c'est un terrain de pétanque. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez traverser comme vous voulez. On vous dit simplement, amis visiteurs, soyez attentifs, nos jeux peuvent être dangereux. Merci. Une autre vision de la précaution dans la pratique. Ce qui amène à distinguer deux choses très intéressantes. La vigilance, deux notions qui sont très différentes, qui consiste dans l'activité de tous les jours. Par exemple, moi je suis vigilant, là ça commence à discuter, donc ça veut dire qu'ils n'écoutent plus. Donc j'ai une boucle de vigilance, qui fait que soit je vais dire, bon ben je vais les rentrer dans mon discours, comme ça ils sont obligés d'écouter ce que je dis puisque je parle d'eux. Vous voyez, donc la vigilance c'est quelque chose qu'on fait de manière continue pour assurer notre présence dans ce jeu entre le visible et l'invisible, le présent, le futur, ce qui va pouvoir se produire. La procédure de précaution, c'est très différent. C'est pour ça qu'il y a des malentendus dans les disputes et que les médias n'arrivent toujours pas à comprendre. C'est un cadre juridique qui permet de prendre des décisions politiques sur des situations d'incertitude. Alors, je ne vais pas vous faire encore de droit. Je n'ai pas plus envie que vous, donc on va passer très vite. Mais vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, et vous aurez un jour ou l'autre à vous coltiner ce genre de choses, parce que vous savez que le juridique pénètre très fortement aujourd'hui. On peut se retrouver responsable, on signe des contrats, on s'engage dans des systèmes d'obligations et de réglementations. Le procédé de précaution est très bien défini dans la Charte de l'environnement. C'est quand il y a une situation d'incertitude sur les connaissances qu'il faut prendre des mesures transitoires en attendant que l'on puisse trancher. Si oui ou non, on peut calculer un risque. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez subtil, c'est pas quelque chose de trivial. Alors évidemment, dans la foire d'empoigne télévisuelle à laquelle se livrent un certain nombre de porte-paroles politiques, ça devient un peu caricatural, mais en réalité c'est très technique, et c'est une question de proportion et de transition. Alors, vous trouverez, là je ne vais pas vous le faire, parce que je sens que je préférerais qu'on y revienne éventuellement dans la discussion, essayez de redéfinir le risque à partir de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'au fond, bien être conscient qu'un risque, ce n'est pas une catastrophe, c'est son anticipation. C'est un calcul qui est fait sur sa possibilité. Ensuite, à partir du moment où on n'est pas sûr de pouvoir calculer une probabilité, on va avoir affaire à de l'incertitude, et donc on va entrer dans une logique de précaution. Comme je ne sais pas si je prends un risque ou pas, je vais quand même prendre des précautions. Quand même pas stupide, a priori. Enfin, c'est une des formes de l'intelligence humaine collective, etc. Comme le calcul des probabilités n'est pas évident, il va falloir faire appel à toutes sortes de versions, de visions du monde, pour voir comment les uns et les autres perçoivent, comprennent, saisissent ces questions de risque potentiel. Et donc, on va entrer dans un processus collectif, donc sociologique. D'où ma présence sur ce genre de sujet. J'ai quelque chose à dire. Donc, vous voyez que ça sera toujours collectif, un risque. Ça va être très difficile de le gérer tout seul. Ce n'est plus du risque, c'est de la métaphysique. L'incertitude qui va devenir compliquée, qui fait que vous avez ces foires d'empoigne pendant des années sur les OGM, sur le nucléaire, sur les nanotechnologies, sur les champs électromagnétiques, sur la grippe du poulet, enfin bon, peu importe, ou le bisphénol, va venir du fait qu'il y a aussi une incertitude sur l'attitude des acteurs par rapport à l'incertitude. Puisque vous faites rentrer d'autres acteurs pour partager l'interprétation du risque, il va y avoir des intérêts. Vous allez avoir l'intérêt des industriels, l'intérêt des militants écologiques, l'intérêt des représentants de l'État. Vous allez avoir des citoyens, des riverains, par exemple, qui vont se sentir plus concernés parce que les gaz de schiste, ben, c'est à côté de chez eux qu'on va les retirer. j'en sais quelque chose, je connais bien le coin en Ardèche, notamment où il en est question, à Villeneuve-de-Berg. Je vous assure que tous les gens à côté, etc., veulent pas voir extraire des gaz de schiste à 500 mètres de chez eux. Si vous êtes à 500 km, déjà, bon, est-ce que ça passe par les vents dominants? Non. Déjà, oui. Etc., etc. Donc, la manière d'être concerné va créer des incertitudes en chaîne. Et du coup, ça va redéfinir ce que nous appelons une société civile, c'est-à-dire notre façon de vivre dans la police, dans la cité, ce qui est, ici on forme une société, hein, on est en collectif, on est en public, donc, et il y a à la fois des règles, il y a à la fois des déplacements, des forces, des processus, et donc tout ça va redéfinir ce qu'on appelle tout bêtement, si j'ose dire, la démocratie. Une petite citation d'Edgar Morin, on y reviendra, vous la lirez, je laisserai le soin à vos enseignants de vous coller une rédaction sur cette citation. Hein. Juste pour passer et pour terminer, puisque là je suis à peu près dans le créneau, pour vous montrer qu'en fait toutes ces opérations de discussion sur le risque, le danger, l'incertitude, l'aléa, etc., et tout ce que ça engage, va susciter un immense travail. Il y a des gens qui passent leur vie là-dedans. Là, par exemple, c'est les commissions parlementaires. On n'imagine pas le travail politique qui est fait. On parle souvent du politique comme celui qui agite des machins à la télé. Non, il y a tous ceux qui se coltinent des commissions, avec des commissions d'enquête. C'est-à-dire qu'ils vont faire des auditions pendant des journées pour essayer de comprendre que s'est-il passé lorsque la tempête Xynthia a fait passer l'eau au-dessus des digues. Et donc refaire systématiquement, entendre tous les points de vue, regarder les données cartographiques, les données géologiques, hydrographiques, etc., etc. Donc il y a un vrai travail politique et ça mobilise. Parce que ces rapports, ils se stockent à l'Assemblée nationale, ils donnent lieu parfois à des projets de loi. Ça influence la manière dont la loi est configurée ultérieurement. Ça va servir à des avocats pour aller porter des plaintes, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail de mobilisation. Le terme de mobilisation n'est pas évidemment réservé aux militants politiques. Je voulais juste vous montrer deux, trois exemples et revenir à une conclusion. Vous voyez par exemple une manière de mobiliser, vous avez le nom d'une ville, bon en l'occurrence c'est Fessenheim, qui donc est le nom d'un site nucléaire, et vous rajoutez le symbole nucléaire des deux côtés de la ville, hein, c'est les deux symboles, vous le reconnaissez, atomique, vous n'êtes pas à l'abri. Ce qui est une façon de constamment envoyer un signal, hein, et de modifier en fait la signalétique, de faire exister ce qu'on a tendance à oublier. C'est vrai qu'une centrale, quand elle tourne, finalement, ça passionne pas les foules. Alors, c'est qui c'est rigolo, en fait, ce sont des électro-hypersensibles qui ont manifesté en masse à Barcelone pour obtenir de l'État espagnol des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans ondes, de façon à cesser de souffrir. Vous savez que c'est notamment la migraine qui est en cause, mais ça peut être toutes sortes de symptômes, de syndromes. L'électro-hypersensible, en fait, se retrouvant très vite dans des situations de ne plus supporter les ambiances où les ondes où les champs électromagnétiques sont présents. Et donc vous voyez que surgir dans l'espace public pour manifester sa colère contre l'oubli d'une condition qui est celle de l'hypersensible, ça prend la forme d'une manifestation de ce type. Bon là, on en a déjà parlé, c'est la manifestation dans le champ directement, où vous allez carrément faucher les plantes transgéniques, donc rendre visible la cause du faucheur d'OGM. Et le truc un peu trash qui est sympa, c'est vous voulez lutter contre la surconsommation de viande, et donc vous faites des performances. Donc là, ce sont des militants britanniques qui donc se mettent dans les conditions donc d'un morceau de bidoche, c'est quand même ça, sous cellophane, avec le côté un peu sanglant, etc. Si vous regardez, si vous allez demain dans votre supermarché préféré, et vous regardez un peu un morceau bien saignant de bidoche, c'est ça. C'est donc l'idée, vous voyez, avec l'étiquette, et vous faites passer votre mot d'ordre, etc. Donc vous voyez que toutes ces questions de causes, de disputes, de risques et d'incertitudes vont amener les acteurs à des situations de critique, et que c'est le fonctionnement normal d'une démocratie que de rendre visibles des choses non visibles, et de sortir de la routine et simplement, effectivement, de l'espèce de sommeil dans lequel tout fonctionne. Et donc, finalement, ça remet dans le cœur du fonctionnement des démocraties les actions parfois les plus spectaculaires. Et il y a là un anormal. Alors, je voulais juste vous donner quatre bonnes raisons pour continuer par vous-même à étudier, regarder ces controverses, à vous emparer de ces dossiers. Avec aujourd'hui, vous êtes une génération qui arrive avec un web qui vous fournit une quantité de supports, d'informations, du blog jusqu'au site officiel, du forum, jusqu'à toutes les ressources et les bases de données en ligne. Vous avez une masse d'informations, c'est presque trop. Donc, si vous vous intéressez à des dossiers, vous pouvez aller fouiller et regarder comment se forme la controverse. Donc il y a quatre bonnes raisons. Donc, impossible d'être un citoyen du monde sans savoir de quoi est fait ce monde. Donc effectivement, ne pas savoir ce que c'est qu'un OGM, manger ou ne pas manger d'OGM, ne pas savoir finalement de quoi il est question avec ces histoires de radiation, qu'est-ce que ça signifie d'aller passer un IRM, est-ce que je prends une dose de quelque chose, etc., etc., etc. C'est quand même problématique. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les conceptions qu'on va pouvoir développer, les conversations qu'on va pouvoir avoir en petits groupes ou de manière plus large, vont dépendre de cette manière dont on s'est saisi de ces dossiers. Donc il y a un travail à faire d'aller regarder de quoi ils retournent. Et c'est vrai que ça fait partie des définitions d'un citoyen aujourd'hui, de se saisir des sciences et des techniques, de ne pas les laisser aux spécialistes. La deuxième bonne raison, c'est qu'évidemment, là, on est dans une phase critique. J'avais une citation d'un collègue que j'aime bien, qui est Benjamin Dessus, qui est un spécialiste d'énergie, qui dit que si on veut éviter le pire, maintenant, il faut agir vite. Bon, c'est une figure de rhétorique, on peut dire. Sur le climat, ça se joue maintenant sur quelques années. C'est-à-dire qu'on peut créer les conditions, modifier les conditions climatiques sur cette planète qui font que on ne pourra pas revenir en arrière sur un certain nombre de choses. Une fois que vous avez fait fondre les glaciers, une fois que vous avez modifié la biodiversité, une fois que vos océans ont pris plusieurs centimètres de hauteur, vous avez des enchaînements catastrophiques sur lesquels vous ne pouvez pas revenir, et en tout cas, la déforestation est un exemple, etc., etc. Ensuite, vous avez des risques nouveaux qui peuvent surgir. On n'est jamais au bout de nos peines. C'est-à-dire qu'il y a toujours introduction de nouveaux problèmes. On s'est débarrassé du sida, d'une certaine manière il peut revenir, mais vous avez d'autres pathologies qui surviennent, etc., etc. Et donc il y aura toujours, vous serez toujours surpris. Moi-même, je dois dire que H1N1, donc la fameuse grippe, elle arrivait après H5N1. Alors, j'avais dit d'ailleurs, s'ils sont pas ça, je leur fais une interrogation, dites-moi quelle est la différence entre H5N1 et H1N1. Subtilité, justement, de la chimie sur la formation d'une souche virale. Peu importe. En tout cas, n'ont pas eu les mêmes conséquences. La grippe aviaire s'est écoulée de manière très lente en passant essentiellement par les volatiles et a touché l'homme que par ricochet de manière très rare. Alors qu'H1N1 est passé d'homme à homme très vite. Mais comme toutes les instances internationales s'étaient préparées à une pandémie sur la grippe aviaire, quand ils ont vu que H1N1 circulait très vite d'homme à homme, ils ont réappliqué le même modèle. Ça a donné cette alerte à H1N1, etc. Et donc, j'ai interrogé quelques collègues médecins qui m'ont dit non, c'est une grippette. C'est-à-dire que les gens vont s'auto-vacciner, il y aura même moins de morts que la grippe, ce qui s'est réalisé. Mais imaginez que ce soit gouré. Donc vous voyez, allez voir l'information, essayez de recouper, d'essayer de trouver comment au fond, à un moment donné, de quoi est fait notre monde et comment ça tient ou ça ne tient pas. Surtout quand il y a des choses nouvelles qui émergent. On ne sait jamais, même les meilleurs scientifiques ont toujours des incertitudes et des choses à apprendre, on apprend tout le temps. Il n'y a pas de savoir. L'université de tous les savoirs, c'est justement constamment les reconstruire. Enfin, en démocratie, il me semble qu'il n'y a pas d'autre voie que d'ouvrir en permanence des discussions collectives. C'est-à-dire que précisément, on ne peut pas s'en tenir à la prise d'information, à la délégation à d'autres de ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire. Il faut tout le temps soumettre à la question les décisions qui sont prises, les mesures qui sont développées et le type de science et de technique qui servent à prendre des décisions politiques, juridiques ou autres. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire et maintenant je vous passe la parole pour un débat que j'espère large et riche. Merci.
Merci beaucoup.